Salut Ben, comment ça va? Qu'est-ce que t'écoutes?
Salut Steph. Bon, moi ça va bien. Je viens de découvrir un morceau. Ah mais j'ai jamais entendu une ligne de basse pareille.
Ah ouais. Ouh là 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 là.
Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Bah tiens, écoute ça. Il y a une section cuivre.
Ah là, c'est morceau d'anthologie, direct. Je crois qu'on arrive.
Oui, on dirait que c'est ici.
Bonjour.
Bonjour Paul.
Salut Paul, comment ça va?
Eh ben très bien, et vous?
Super.
Bien, bien. Bienvenue. Merci de nous accueillir chez toi.
Mais soyez les bienvenus.
Oui, c'est sympa chez toi.
C'est clair, on a une vue superbe sur tout Paris, dis donc.
Sur le nord de Paris.
Ouais, le nord.
Ouais.
On voit aussi quelques photos de musiciens sur les murs.
Oui, notamment cette photo de Guirma Beyene, qui a été prise lors de son premier concert, de son comeback.
Ah oui, c'est
on
vrai.
A fait avec Akale Wube. Et le premier concert où il avait très très peur au début, et à un moment il s'est libéré, et cette photo a été prise à ce moment-là. C'est Justine Darmon qui a pris cette photo, et je crois qu'elle s'appelle Libération. Voilà, on voit Guirma Beyene, les bras levés, soulagé que d'avoir passé l'épreuve, et qui a l'air heureux et fier.
Et on voit aussi une photo de toi, alors aux percussions cette fois.
Eh ben oui, alors en fait que j'ai acheté cette photo de Guirma à Justine Darmon, et à qui j'avais présenté le groupe, à Akale Wube, qui est venue faire pas mal de photos, et donc elle m'a offert cette photo de moi. J'aime bien, voilà.
Alors on trouve quelques disques aussi, quelques vinyles, il n'y en a pas beaucoup.
Ben oui, en fait j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Ici, ça a beau être, c'est très sympathique, mais c'est assez petit. Et dans un premier temps, mes collègues de vinyle, c'est pas une collègue de fou, mais quand même, j'en ai ramené d'un peu partout où j'ai traîné. Elle est partie en Bretagne, chez mes parents, où il y avait un peu plus de place, et je l'ai fait revenir au compte-gouttes. Voilà.
Alors, il y a un vinyle de Miles Davis, qui est sur la platine.
Ouais, c'est Sketches of Spain. Et en fait, je me suis racheté, j'avais un problème pareil d'ampli de salon, mon ampli buggait un peu. J'ai racheté un ampli de salon et donc j'ai pu remettre des vinyles. Et le premier que j'ai remis, non, c'est pas vrai, j'ai mis un morceau de Mingus d'abord, Goodbye Pork Pie Hat, parce que j'aime beaucoup ce morceau et que je l'avais sous la main dans un vinyle. Et après, j'ai mis Sketches of Spain de Miles, qui est un album incroyable. Miles, comment il joue, les arrangements de Jill Evans, l'approche que j'adore de regarder ailleurs. Là, ils regardent le flamenco. Voilà, c'est pas leur, à la base, c'est pas leur culture, mais ils regardent ça avec leur angle de vue qui est, c'est dingo, comme on dit.
Dans le flamenco. Comme on dit dans le flamenco.
Ouais. Non, mais c'est vraiment... C'est un de mes disques... S'il fallait que je choisisse, je l'emmène avec moi. Quoi qu'il arrive.
Ça, c'est les secrets, les mystères de l'approche des jazzmen sur le latin, que ce soit en Amérique du Sud ou en Espagne. C'est un point de vue différent qui est super intéressant.
Tout à fait. Et alors là, mais parce que sur le latin d'Amérique du Sud, on a plusieurs exemples. Mais sur le flamenco, j'ai pas d'autres exemples en tête. Il y en a sûrement, hein, mais c'est un des rares. Enfin,
Dizzy, c'est pas essayé. Lui qui s'est essayé un peu partout.
Bah, c'est vrai que flamenco, mais qui sonne autant jazz que Sketches of Spain. Enfin, c'est plus du jazz tourné flamenco.
Ah ouais, ouais.
Après, si je sais pas si vous voyez le trio avec Paco de Lucía, McLaughlin et Aldi Meola.
Oui.
Donc il y a tout ce langage un peu jazz sur fond flamenco,
et pas sur
tous les morceaux d'ailleurs. Mais on n'est pas vraiment dans le jazz, quoi. On n'est pas dans les cuivres.
Non, il y a Paco de Lucía qui c'est lui qui amène le flamenco et c'est le maître de son époque du flamenco. Donc c'est une rencontre avec mais c'est pas un, un regard extérieur, et c'est moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le dans certains disques. Par exemple, c'est un truc qu'a beaucoup fait Baden Powell quand il fait les afro samba et qui va chercher la musique africaine, mais avec son son de guitare, avec son... Le disque est génial, les compos sont mortels, et la démarche est super, de, du point de vue du Brésil, d'aller retrouver des racines africaines, et quand il explique en interview, c'est, ça complète la beauté du, de la chose, je trouve.
Et il était parti en immersion, hein, au sein de communautés africaines, du camp d'Omblé notamment, pour se mettre justement dans l'oreille, s'imprégner, parce qu'il ne connaissait pas auparavant Baden Powell. Et ça l'a submergé.
Et ça part, ça part souvent de là. Et je crois que pour Miles Davis avec Sketches of Spain, c'est une de ses copines qui l'emmène, et un truc où il y a du flamenco. Lui, il y va. Bon. Et en fait, il prend une petite claque. Et après, il achète plein de disques de flamenco. Il plonge dedans. Et ensuite, il va voir Jill Evans. Il lui fait vas-y, on fait un truc. Ils avaient déjà fait deux disques ensemble, je crois. Je sais tout ça parce qu'il il traîne là, et j'ai lu il y a quelques jours le dos de la pochette. Sinon, je ne suis pas très érudit sur les...
c'est comme ça qu'on apprend tous, hein, en lisant les pochettes, en
ouais,
lisant...
Ouais. Mais là, voilà, en le réécoutant, j'ai lu ce qu'il y avait derrière, et il raconte ça, que voilà, quelqu'un lui a mis ça dans l'oreille, et puis il a fait « Attends, c'est quoi ?» et creuser un peu la question.
C'est toujours sympa d'imaginer un musicien qu'on estime beaucoup, enfin, quel qu'il soit, et puis on l'imagine découvrir un nouveau pan de la musique,
ouais.
Se gaver pendant une semaine en achetant plein de disques et espèce de boulimie, et puis du coup aboutir à une espèce de fusion encore, hein, parce que c'est encore une fusion. Paul, j'ai une question à te poser.
Ouais.
Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment ?
En dehors du Sketches of Spain qui est sur ma platine ?
Exactement.
Bah, juste avant, c'était du Mingus, et j'ai réécouté notamment du Herto Moreira.
Tu disais que tu venais de redécouvrir, c'est ça, hein ?
Binge, on peut
depuis
le dire
qu'on
ça.
Écoute Herto Moreira ensemble.
Depuis que tu m'as fait écouter Herto Moreira, c'est devenu une passion constante, et je suis retombé sur l'album Natural Feelings, qui est dingue du début à la fin, dans lequel il y a Hermeto Pascual qui joue. Il y a des compos d'Hermeto Pascual.
Il y a Sivuca à la guitare. Ron Carter à la basse. Et Flora Puri.
Alors c'est Sivuca. Et alors.
Plus que ça.
Non. Et alors Hermeto, il est au clavier. Parce que je pensais que Hermeto était aussi à la guitare, parce qu'il y a des parties de guitare qui sont déroutantes, et comme pourrait le faire Hermeto Pascual, c'est-à-dire de faire vraiment à sa manière. Je prends la guitare, mais moi je vais en jouer comme ça, et c'est génial. Et puis quand il prend n'importe quoi, il le fait à sa manière.
En tout cas, il fait les claviers là-dessus, mais peut-être qu'il y avait virgule guitare à la fin et que tu
peut-être,
vois.
Peut-être, peut-être.
Mais il y a Sivuca et à la guitare.
Sivuca à la guitare est complètement dingue aussi. Et d'ailleurs, c'est un album, en le redécouvrant, j'étais là genre, ah mais qu'est-ce qu'ils font là ? Et en fait, j'ai relevé en partie cet album. Et arrivé sur un morceau qui s'appelle Tunnel, je suis allé écouter d'autres versions, voir si on entendait mieux la guitare, enfin bon. Et j'ai relevé finalement une version de Sivuca, de Tunnel, qui est un morceau d'Hermeto Pascual, sur le disque d'Herto Moreira. Et ces trois-là, c'est quand même les boss, quoi. Herto, Sivuca, c'est complètement dingue. Et évidemment, Hermeto Pascual aussi.
Ben on écoute.
On l'écoute.
Thank you.
c'est un des premiers, si ce n'est le premier album d'Ayrton Moreira, sorti en 1970. C'est sorti aux États-Unis sur le label Buddha Records. C'est ça, c'est un disque qui est classé dans les œuvres à retenir, à la fois, à la fois cool, décontracté, mais très sophistiqué. C'est le mariage parfait des capacités des musiciens et de la vision des artistes.
Et c'est vrai joli. Que c'est un album qui est... Moi, le premier truc qui m'a sauté à l'oreille, c'est que c'est frais. C'est, ça a l'air assez simple. Ça a l'air... Enfin, il y a toujours l'énergie que met Erto dans tout ce qu'il fait et qui déborde et qui est de l'énergie positive. Voilà, c'est frais, c'est bon, c'est positif. Et en relevant, il y a souvent des trucs, même ses compos à lui, c'est sur deux accords. Harmoniquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Mais t'es là genre, ah, en fait, ah, c'est marrant, c'est un samba dans une métrique, en 7-4. Et c'est pas, on se dit pas, waouh, c'est compliqué, ça doit être super. On se dit, oh, c'est trop simple, trop frais, trop... Comment ça marche? Et en fait, en dessous, c'est assez sophistiqué. La façon dont c'est construit, mais jamais au détriment de l'énergie débordante qui met à l'interpréter et son génie mélodique. Parce que c'est toujours une mélodie au-dessus qui est comme si on la connaissait depuis toujours, qui est simple mais géniale. Évident, enfin, voilà, c'est tout son talent. Erto.
Et tout ça servi par la virtuosité des musiciens. Erto Moreira, lui déjà, parce que il a quand même une virtuosité. Il revenait juste avant d'enregistrer cet album, il avait fait une session, une scène avec Miles Davis. Justement, il avait joué de la cuica. Certains critiques citaient ce moment comme un truc insane. C'était insane la façon dont il avait joué de la cuica avec, en contrepoint avec Miles Davis.
Ouais. Bah, il est super partout. Moi, j'ai eu la chance de le voir une fois en live, il n'y a pas si longtemps, et c'était plus le gamin que c'était à l'époque. Mais c'est débordant d'énergie, enfin, toujours. Et avec Miles, c'est super. Moi, j'adore le concert à l'île de Wight, où il joue notamment de la cuica. Je ne sais pas si c'est ça l'épisode dont il... De façon assez insane.
Ouais, il y a des belles envolées, enfin, d'ailleurs, de tous les musiciens à cette époque-là sur l'île de Wight.
Ouais, super concert. Et il est là.
C'est vrai qu'il a l'air possédé parce qu'en plus, il y a des images de ce live. Hein.
Alors là, il est possédé. il le raconte lui-même.
Il a l'air possédé et lui, et ouais.
Ouais, il est possédé s'envole. Aussi il chimiquement. Il a dit : j'ai aucun souvenir de ce concert. J'étais trop défoncé.
Ce qui est troublant, c'est que tu as choisi justement Ayrton Moreira parce que lui, en faisant cet album, il explique que ce qui le fascine, c'est de découvrir de nouvelles voies, de nouvelles méthodes de communication pour le genre humain au travers de la musique. Et justement, pour atteindre cet objectif, il étudie tous les sons parce que Ayrton Moreira, il est percussionniste, il est aussi flûtiste, mais il va s'essayer dans des sons, il va s'isoler dans la forêt amazonienne pour trouver des sons. Après, il fabrique ses instruments. Enfin, c'est de la recherche constante.
Bah oui, et moi j'aime bien cette démarche. Et c'est presque un peu ma façon de faire de la musique, c'est tomber dingue d'un truc, un style, un pays, un style dans un pays, et puis... Il n'y a plus que ça pendant un moment, et puis à relever, et puis au bout d'un moment, essayer de faire des choses avec. Ça marche, ça ne marche pas. Mais c'est par espèce de coup de cœur comme ça, successif.
Paul, on a une dernière question. C'est un peu le climax de l'émission.
Waouh.
Alors, si tu devais rencontrer ton idole, une personnalité de la musique plutôt que tu admires, même si elle n'est plus là, qu'est-ce que tu aurais à lui ? Enfin, qui ce serait déjà ? Et qu'est-ce que tu aurais à lui demander ou à lui dire ?
Eh ben, alors...
Question vache, je sais.
Question vache, oui. Mais j'y ai réfléchi un petit peu. Dans la musique, il y a une sorte d'empathie. Moi, quand j'adore une musique d'un compositeur ou d'un interprète ou un son, je me sens proche de cette personne. Je me sens proche de Baden Powell, de son de guitare. Enfin, et Duke Ellington... Si j'avais eu une option pour avoir un troisième grand-père, j'aurais choisi Duke Ellington parce que je me sens proche de lui. Et alors, justement, je me demandais si j'avais à lui poser une question. Il pourrait y en avoir deux, mais je vous donne la principale. Si vous en voulez, je vous en donnerai une annexe. Mais c'est dans ce que lui a fait comme arrangement, est-ce qu'il y a des extraits de tel morceau ou de telle suite dont il est particulièrement satisfait? Il y a vraiment parfois ces trois secondes-là, cet accord-là de trombone, où je suis là genre « Ah, c'est là, c'est maintenant !» Et savoir est-ce que ce serait les mêmes que lui. Et savoir si je serais encore plus proche que je ne peux l'être déjà en esprit des musiciens que j'admire, que j'aime, et en particulier lui qui m'a bouleversé maintes fois. Donc voilà, est-ce qu'on serait raccord sur le choix de quelques séries de 3 secondes, genre, on est d'accord que c'est maintenant, ça là, mais non, t'as rien compris, c'est maintenant, je suis là, mais non, c'est pas vrai. Voilà, ça m'amuserait.
Je pense que, oui, il peut y avoir un concours de points de vue pour dire, effectivement, ce moment représente quelque chose de bien particulier dans la musique. Tu penses plutôt ça
Dans sa musique à lui.
Dans sa musique à lui.
Il y a d'autres où c'est les morceaux, quel morceau tu préfères. Mais dans sa musique à lui, souvent arrive mon accord préféré de trombone. Et quand il arrive, c'est maintenant et c'est mon accord préféré. Et j'ai envie de lui dire, et toi?
D'accord. Passeur de son.
Ah oui.
Alors Polo, la deuxième question, maintenant c'est le morceau plutôt que t'emmènerais sur l'île déserte, le all-time favorite. Un des morceaux qui est incontournable pour toi.
Et alors là, vous m'avez posé un peu une colle, mais quand même, dans mon panthéon à moi, assez central, il y a Duke Ellington, qui m'a fait découvrir ce que c'était des couleurs en musique, enfin, des textures, qui allait loin. Je ne manque pas de m'émerveiller devant ce qu'il a fait produire comme son à son orchestre. Et donc, j'ai choisi un morceau de Duke Ellington, mais ça aurait pu être quand même beaucoup de morceaux. Mais c'est un morceau de l'album New Orleans Suite, parce qu'il a des albums qui sont le nouvel album de Duke Ellington. Il a eu des concerts sacrés qui sont incroyables, il y en a deux, le premier et le second. Et il a une autre forme de présenter sa musique, c'est des suites. Donc il y a New Orleans Suite, c'est un extrait de cet album-là, Girl Suite, Far East Suite, Latin American Suite, qui sont que des chefs-d'œuvre, des pépites, qui ont un format narratif intéressant, parce qu'à chaque fois, ils racontent une histoire ou une impression. Latin American Suite, c'est sa vision justement de la musique latino-américaine. Oui, Girl Suite, c'est une galerie de portraits de femmes.
Tous les titres sont des prénoms.
Voilà. Et ça fait. Et c'est une. Le format narratif est super. Et alors c'est toujours un peu des bonus, mais quand même, quand en plus de la musique super, il y a soit justement la démarche, comme on disait tout à l'heure, de regarder ailleurs et d'en donner sa version, ou de prendre un thème et d'en faire le tour de la question. Je suis assez sensible à ce genre de format narratif. Et dans les suites, il s'agit toujours de ça. Donc là, c'est la New Orleans Suite, donc il regarde vers la Nouvelle-Orléans et il nous dit ce que lui il entend, et c'est incroyable. Voilà, on peut peut-être écouter le morceau.
Et le titre, il s'agit de Portrait of Wellman Brown.
Ben on écoute.
On l'écoute. Thank you.
Et c'est un morceau génial où il y a une sorte de, on appelle ça un ostinato, je crois, une formule
récurrente
qui est jouée par la contrebasse, qui est jouée par le piano, qui est jouée par une clarinette basse, qui voyage un peu comme ça, et par-dessus ça, il déploie les couleurs ellingtoniennes, et c'est magnifique.
Ah, ça donne envie, ça.
Et l'album date de 71, donc c'est une suite tardive, parce que Duke Ellington a commencé les suites quand dans les années 50.
Ouais.
Mais ça s'est densifié plutôt dans les années 70 et fin 60.
Parce ouais.
Que je crois et, que Black, et... Brown and Beige, c'est années 50.
Ok, carrément. Carrément. Et ben voilà, c'est une late suite de Duke Ellington, donc. Mm-hmm.
Et ben on l'écoute.
On écoute. Avec ces musiciens qui sont restés sur scène pendant 5 ou 6 décennies, c'est pas ouais. facile de leur trouver un titre, c'est ça. C'est une œuvre tellement immense.
Et il y a eu un moment, aux États-Unis, c'était annoncé, en tout cas, la fin des big bands. Plus de moyens, c'était les formules plus petites, des quintettes, des quartettes. Et la folie de la danse, du jazz, parce que c'était avant tout pour danser au début, dans les années 20. Et puis après, ça a été développé, mais il y a eu un moment où il y avait plus de sous, c'était plus à la mode. Les big bands, ça allait gentiment s'arrêter. Et puis il y a eu une espèce de renaissance en un morceau, je crois, au festival de Newport. Et là, il y a Paul Gonzalez, son sax ténor du moment, qui restera la star des solistes jusqu'à la fin, prend un chorus, et quand on rejoue une fois l'harmonie du morceau, mais en improvisant dessus, et un chorus, et on refait une fois la grille d'accord, deux chorus et deux fois, et alors lui il commence gentiment, on pense en faire comme d'hab, 4 ou 5 chorus autour de la chanson, quoi. Et puis en fait il rentre en feu et il fait monter la sauce, et les gens sont intrigués, et les gens qui presque partaient devant la scène, il est en train de se passer un truc, reviennent, et puis en fait tout le festival débarque, et il y a une espèce de folie, et je sais plus, il prend 74 chorus et qui fait monter la sauce jusqu'à Duke qui renvoie les riffs derrière, enfin il se passe un truc, et en le temps d'un morceau, même d'un soliste, d'un solo, l'orchestre de Duke redevient à la mode. Et c'est à nouveau, genre, il faut écouter Duke Ellington.
27 chorus.
27, ouais, je suis allé un peu loin, j'ai dit 74.
il faut nourrir la légende en même temps. Hein.
Ouais, 27, ça fait pas mal déjà.
Oui. Ouais.
On a tout, là.
Ouais, juste, je vous dise un mot du morceau.
Voilà, c'est ça qu'on voulait. Ouais. Exactement. Tu nous joues quel morceau?
Bah, le morceau que je vais vous jouer à la guitare, là, pour terminer, c'est un morceau de Baden-Powell relevé d'un album de guitare solo qui est super, qui est assez différent des autres, qui s'appelle Seresta Brasileira. Thank you.
Voilà, Qu'est-ce t'écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve mardi 11 mars pour un nouvel épisode. Ciao.